Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Stéphane Carpentier.
L'invité de RTL Matin en direct en studio, Benjamin Sportouche, vous recevez ce matin le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale.
Bonjour Christophe Castaner.
Bonjour Benjamin Sportouche.
Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Alors, vaccination obligatoire pour les soignants, passe sanitaire largement étendue, test PCR bientôt payant. Franchement, c'est une vaccination obligatoire qui ne dit pas son nom, Christophe Castaner.
Non, c'est le fait que celles et ceux qui refusent la vaccination se mettent en responsabilité. La responsabilité de ne pas se vacciner, c'est celle de faire courir un risque à sa famille, à ses voisins, à ceux qu'on fréquente, au personnel sanitaire et à nos hôpitaux. Et donc, effectivement, il faut qu'ils l'assument.
Oui, mais l'objectif, c'est de rendre la vie impossible à ceux qui ne seront pas vaccinés. Donc, c'est une vaccination obligatoire.
Non, mais c'est inverser le process. C'est-à-dire que parce que nous n'avions pas la solution, c'est le vaccin, il a fallu fermer des établissements comme les restaurants, les cinémas, les bars. Aujourd'hui, on a l'arme de réponse, c'est le vaccin. Et si certains refusent de faire le vaccin, on ne va pas, à cause d'eux, décider qu'on va fermer à nouveau les bars et les restaurants. Donc on fait un choix inverse, c'est celui de dire chacun prend ses responsabilités et en même temps, on fait une vaccination plus simple encore, qui sera possible partout sur le territoire national. Et on voit bien que les Français aussi attendaient peut-être ce petit coup de pression, et les demandes de rendez-vous hier et dans les jours qui viennent, je n'en doute pas, seront la démonstration que tout le monde a conscience que la solution, c'est le vaccin.
Attendre le coup de pression, les Français ont attendu le coup de pression, vous venez de nous dire, c'est-à-dire qu'il fallait sortir le bâton.
Non, certains l'ont attendu, beaucoup sont rentrés dans la logique, d'autres étaient plus impatients encore et on se plaignait que ça ne monte pas assez vite en puissance, mais ce que je sais, c'est qu'encore la semaine dernière, il y avait chaque jour 200, 300 000 vaccins disponibles et non utilisés, faisant en sorte que les Français puissent se protéger eux-mêmes, puissent protéger ceux qu'ils aiment, puissent protéger aussi la société française.
Petit coup de pression aussi sur les soignants, donc obligation vaccinale pour eux. Vous ne craignez pas qu'il y ait des démissions en cascade pour ceux qui ne veulent pas être vaccinés? Après tout, c'est leur droit.
Démissionner, le droit de chacun. Par contre, mettre en risque, quand on est professionnel soignant, celles et ceux que l'on soigne, ça n'est pas un droit, c'est une irresponsabilité. Et donc, il me paraît nécessaire aussi de faire en sorte que chacun se vaccine. Mais nous sommes déjà sur de très hauts taux de vaccination, selon certaines professions médicales. Et donc, il est important d'accompagner celles et ceux qui n'ont pas pu le faire, ou celles et ceux qui doutent, pour les rassurer. On a ce devoir-là, et de faire en sorte, avec un délai raisonnable, disons jusqu'à mi-septembre pour cela, que l'on puisse trouver des solutions pour chacun. Il ne s'agit pas de stigmatiser, mais il s'agit là encore de protéger.
Et ils sont maintenant culpabilisés, menacés de ne plus être payés dans une brutalité indécente. Quelle ingratitude, dit Marine Le Pen, justement, à propos de cette obligation vaccinale pour les soignants.
Est-on obligé de commenter les errements de Marine Le Pen, qui, si le président de la République n'avait pas proposé des mesures fermes, serait la première à dénoncer que les mesures ne sont pas assez fermes. Et donc, je ne vais pas commenter les propos de Marine Le Pen. Chacun est mobilisé, a soutenu les professionnels de santé. Et quand nous faisons le Ségur, quand nous augmentons l'ensemble du personnel médical dans nos hôpitaux, je crois qu'on fait œuvre utile plus que de faire du commentaire comme Marine Le Pen.
Vous saviez qu'il disait à propos du pass sanitaire fin avril, ça ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français.
Mais j'aurais pu le dire moi-même.
C'est le président de la République qui le disait.
Mais j'aurais pu le dire moi-même. Mais à ce moment-là, ni vous ni moi n'avions en tête que nous aurions un variant, le variant Delta que nous connaissons, qui a cette capacité à se loger dans tous les interstices de la société française.
Nous savions que nous aurions des variants. Nous avions déjà des variants à l'époque, donc on aurait pu anticiper cela.
Non, mais vous savez, peut-être que dans quelques mois, nous nous reverrons et on constatera qu'il y a un variant qui résiste à la vaccination. Aujourd'hui, je vous dis, la vaccination est la solution. Dans quelques mois, vous pourrez me dire, ah, mais vous avez vu, finalement, ça n'était pas la solution. On voit bien qu'il faut s'adapter à cela. Il y a quelques semaines, on se serait vus tous les deux dans cette émission, nous n'aurions pas parlé de la situation sanitaire. J'ai fait beaucoup de médias au fil de l'année. Il y a quelques semaines, ça avait basculé. Nous ne parlions plus de la situation sanitaire. Le variant D est apparu partout dans le monde, en France aussi, avec la violence de sa diffusion. Et donc, il nous faut nous armer contre
donc,
lui.
Donc, le président a changé d'avis sur le pass sanitaire. D'ailleurs, votre majorité, est-ce que vous êtes sûr d'avoir une majorité sur ce texte? Puisqu'il y a encore quelques semaines, eh bien, une partie du Modem et de La République En Marche ne voulait pas entendre parler de ce pass sanitaire pour les activités du quotidien, dont Yaël Braun-Pivet, qui est de chez vous et qui est la présidente de la Commission des lois, et qui avait fait voter un amendement pour cela. Est-ce que vous aurez une majorité? Vous êtes sûr de cela?
Nous aurons un débat et je ne suis pas inquiet sur le fait que nous ayons une majorité parce que les Français attendent que nous mettions en œuvre les mesures que le président de la République a annoncées hier soir.
Ce sera un débat agité, vous pensez?
Non, il ne sera pas agité. Il sera, comme nous avons l'habitude de l'avoir, un débat où on se dit des choses et ensuite on avance, on vote et on met en place la meilleure façon de protéger nos concitoyens, de protéger nos soignants, de protéger nos hôpitaux.
Alors, il va y avoir des effets économiques, parce qu'on entendait hier sur cette antenne, sur RTL, des propriétaires de cinéma, de restaurants qui sont inquiets du fait que ceux qui ne sont pas vaccinés n'ont pas pouvoir venir, en tous les cas dans les médias, le temps qu'ils soient vaccinés. Est-ce qu'il y aura des compensations pour les salariés qui ne vont pas pouvoir travailler le temps de se faire vacciner? Est-ce qu'il y aura une poursuite du chômage partiel pour eux?
Écoutez, des discussions sont ouvertes dès aujourd'hui avec le ministère de l'économie et des finances et les acteurs et les représentants des professions, et nous verrons les meilleures solutions. Mais vous avez raison de souligner.
Vous le souhaitez, vous ?
Non, mais moi je souhaite surtout qu'on mette en place ces dispositifs. Et donc je ne suis pas inquiet sur la capacité, notamment des responsables d'établissement, de les mettre en place. Vous avez cité quelques représentants de professions qui râlaient, j'en ai entendu beaucoup depuis hier soir, dire qu'il fallait mettre en place le pass sanitaire. J'étais la semaine dernière à Strasbourg, j'ai rencontré les représentants des professionnels des cafés, de l'hôtellerie et des restaurants, eux-mêmes me demandaient
les cinémas,
d'élargir.
Très franchement, c'était une activité qui avait un regain énorme et qui se trouve très dépitée aujourd'hui.
Ah mais bien sûr, mais c'est une vraie difficulté. Ce sont des contraintes nouvelles. Alors on peut se dire oui, parce que ça génère des contraintes, on ne le fait pas. Et on regarde pendant ce temps-là les chiffres d'hospitalisation augmentés. Vous savez qu'hier, il y avait 7157 personnes malades du Covid dans les hôpitaux de notre pays. Il y avait presque 1000 personnes en réanimation hier à cause de la Covid dans notre pays. Il y a eu 28 morts. Alors on peut se dire que finalement, ça n'est pas très grave. Moi, je pense que c'est grave. Et surtout, quand on voit qu'on a un virus qui a la capacité à progresser de façon exponentielle, il faut lutter contre. Ah. Et donc, on doit lutter contre et être aux côtés des responsables d'établissements comme les cinémas.
Autre sujet, Christophe Castaner, les retraites. Emmanuel Macron a donc annoncé hier que la réforme serait engagée dès que les conditions sanitaires seraient réunies, tout en expliquant que la pandémie allait durer encore en 2022. C'est ce qu'on a entendu hier. Alors, autant dire qu'il n'y aura pas de réforme d'ici la présidentielle, c'est ce que vous avez compris vous aussi.
Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. D'abord, il a mis deux conditions. Celle, effectivement, d'avoir une situation sanitaire maîtrisée, qui ne veut pas dire la disparition intégrale de la Covid-19 dans notre pays, et celle d'une relance économique qui soit stabilisée. Donc, il a dit les conditions, ce que nous étions nombreux à dire ces dernières semaines, d'ailleurs. Les conditions ne sont pas réunies pour le moment présent. Mais, vous savez, la croissance de notre pays se montre de façon extrêmement positive, en croissance plus forte encore que ce que nous attendions. Et peut-être que nous aurons de bonnes nouvelles, ce que je souhaite, d'ici la fin de l'année sur la question sanitaire. Et donc ce débat qui, de toute façon, est devant nous si l'on veut sauver le régime de retraite, nous l'aurons.
Mais vous souhaitez une réforme d'ici la présidentielle ? Très franchement, c'est possible dans les trois derniers mois, dans la précipitation pendant la campagne présidentielle ?
Moi, je me suis exprimé à plusieurs reprises avez dit, en rappelant qu'il y avait cette double difficulté, celle de la relance et celle de la situation sanitaire. Ce sont la double difficulté que le président de la République a évoquée hier. Moi, je ne lis pas dans une boule de cristal pour savoir si tout sera réalisé.
Les planètes seront difficilement alignées.
Elles seront difficilement alignées, mais le président de la République a voulu montrer notre détermination. C'est aussi ça le courage politique.
En même temps, il a demandé au gouvernement de travailler avec les partenaires sociaux sur ce sujet à la rentrée, mais ils ont tout dit, les partenaires sociaux, ils n'en veulent pas, ni le syndicat, ni le patronat.
Mais la question n'est pas celle de savoir qui on veut ou pas. La question est de savoir si l'on veut ou pas sauver le système des retraites. C'est ça dont on parle. L'année dernière, j'ai vu qu'une caisse de retraite complémentaire comme l'AGIRC Arco avait dû consommer sur une année, du fait de la crise sanitaire, presque le quart de ses réserves cumulées depuis des dizaines d'années. Et donc on peut faire comme s'il n'y avait pas de problème de retraite dans notre pays. Et à un moment donné, se réveiller et se dire « Ah, il y a un problème, alors pour maintenir les retraites, il faut augmenter les impôts. » Parce qu'on peut faire comme Mme Le Pen, qui promet la retraite à 60 ans, mais qui ne dit pas de combien les impôts des Français vont augmenter pour la financer.
Et alors pourquoi pas un référendum après la présidentielle, comme le suggère François Bayrou? Au moins, ce sera clair, ce sera cash.
Si le débat a lieu pendant la présidentielle, il sera construit sur un engagement clair des candidats et de celui ou celle qui sera élu. Et à ce moment-là, il aura un mandat pour mettre en œuvre la réforme sur laquelle il aura été élu.
Donc ce débat aura plutôt lieu à la présidentielle. Et justement, hier, Emmanuel Macron a semblé tracer une feuille de route pour les années à venir. On est d'accord, très franchement, Christophe Castaner, que c'est un président candidat à sa réélection qu'on a entendu hier. Pas plus, pas moins, il n'y a aucun doute pour vous là-dessus.
Président, à la fois dans son intervention devant les Français, puis devant les parlementaires de la majorité, a fixé un cap pour les 10 mois, celle de sa responsabilité présidentielle, et ensuite nous a invités à projeter la France à 10 ans. Et donc on n'est pas dans une logique de candidature, vous savez que mandat présidentiel c'est 5 ans et c'est pas 10 ans. Mais c'est aussi de la responsabilité du président de la République.
On a compris que c'est 5 plus 5.
Mais tout n'est pas seulement au rythme. Oui, c'est 5 plus 5, mais qu'une seule fois. Et donc, ça ne fait pas 10 ans pour l'actuel président. Là, on est en train de perdre nos auditeurs sur le sujet. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'attend pas non plus d'un président de la République qu'il limite son expression à la seule échéance politique. Donc, il faut avoir le courage aussi d'aller au-delà. Et le président de la République, hier, a fixé avec cette ambition de préserver notre modèle social, y compris quand, quelquefois, c'est douloureux, on vient d'en parler sur les retraites, parce qu'on y tient, et de se projeter au-delà Christophe d'une échéance Castaner, politique.
Vous n'aimez pas la langue de bois. Il vous a dit de reprendre le porte-à-porte. Autrement dit, de vous mettre en ordre de marche pour la présidentielle, de vendre le bilan. Il vous a dit ça hier soir. Et il a même utilisé, et ça a dû sonner agréablement à vos oreilles, le slogan « La France unie ». Vous avez entendu dans le discours, il a dit « La France unie ». Vous savez de qui c'était le slogan de la présidentielle
de François Mitterrand.
De François Mitterrand, ça ne rajeunit personne. Mais vous voyez, enfin, quand même.
Vous citez toujours les grands auteurs, Emmanuel Macron.
Un grand auteur pour vous, j'imagine aussi. Mais donc, c'est très franchement, il est candidat. Pourquoi le cacher ?
Il a dit aux députés, faites du porte-à-porte, défendez le bilan, allez au contact des Français. Mais en fait, c'est normal. On est en fin de quinquennat, et si les députés ne commencent pas, et entre nous, ils ont déjà commencé à défendre le bilan, ce serait une erreur. Moi, j'ai attaqué la semaine dernière, je vous l'ai dit à Strasbourg, un tour de France avec les députés de La République En Marche pour justement vendre, expliquer, entendre les critiques sur notre bilan.
Vous souhaitez qu'il soit candidat?
Moi, je souhaite qu'il soit candidat.
Est-ce qu'à la tête de La République En Marche, justement, il faut garder Stanislas Guérini, le patron actuel, pour mener ce combat-là, puisqu'il va y avoir un renouvellement du bureau exécutif et certains disent qu'il faut peut-être changer de tête?
Écoutez, moi je suis dans l'équipe qui est candidat pour le bureau exécutif de La République En Marche, aux côtés de Stanislas Guérini, et c'est lui qui a été à la manœuvre positive pour construire cette liste. Donc je suis parfaitement à l'aise avec Stanislas Guérini, dont je sais la difficulté.
Donc il restera à sa place.
C'est pas moi qui vais décider, ce seront les marcheurs à l'échéance venue.
Et alors, en fin de semaine, vendredi, c'est le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui va être entendu par la Cour de justice de la République. Il risque d'être mis en examen. Est-ce qu'il peut rester ministre? Est-ce qu'on peut avoir un ministre de la Justice mis en examen?
Pourquoi serait-il mis en examen? La procédure, c'est quoi? Et l'affaire, c'est quoi? C'est qu'il y a des magistrats qui ont demandé, le ministère, qui ont demandé au ministre de la Justice, d'abord Nicole Belloubet, puis Éric Dupond-Moretti, d'ouvrir une enquête administrative, une inspection interne sur d'autres magistrats qui auraient peut-être fait une erreur de procédure. Et donc le garde des Sceaux a confié à 4 magistrats chargés de cette inspection le soin d'inspecter. C'est de cela dont on parle. Alors 3 syndicats de la magistrature ont porté plainte dans ce cadre-là. Et donc on est confronté à un choix simple. Soit on décide que dorénavant ce sont les magistrats et les syndicats de magistrats qui choisissent leur patron et qui choisissent le ministre de la Justice. Et à ce moment-là on dit à Éric Dupond-Moretti qu'il ne peut pas rester. Soit on considère que les magistrats sont comme tous les acteurs et institutions responsables, et ils peuvent faire l'objet d'un contrôle.
Vous laissez entendre que c'est une décision politique de la part des magistrats.
Je laisse entendre clairement que la mise en cause de ces syndicats de magistrats, c'est une décision politique. D'ailleurs, eux-mêmes l'ont dit. Dès son arrivée, et quand ils ont porté cette plainte, ils ont dit « on veut faire tomber le garde des Sceaux ». Donc soit on est dans un pays où le garde des Sceaux est choisi par les syndicats de la magistrature, soit on considère que le garde des Sceaux est légitime à demander de contrôler les magistrats dans ce pays.
Merci Christophe Castaner, bonne journée à vous.
Le face-à-face du matin, Benjamin Sportouche, Christophe Castaner avec...